En effet, Sévère d'Antioche, 465-538, va organiser doctrinalement le monophysisme parce qu'il trouve la définition de Chalcédoine trop nestorienne, hein, de nature, lui, c'est un de trop. Il insiste sur l'unité du Christ, sans tomber néanmoins dans le monophysisme de Tychès, du moine donc condamné à Chalcédoine. Alors, en effet, il arrive qu'en Égypte, l'humanité du Christ ait aussi peu de consistance qu'à l'époque des Docètes, hein, une sorte d'apparition, une sorte de fantôme, ou bien juste un corps matériel, donc je vous dis, sans, dépourvu d'une âme humaine. Hein. Alors, les orthodoxes cherchent à trouver un compromis, encore une fois. Et Justinien, vous savez, le grand empereur qui va se lancer à la reconquête des parties de l'Occident passées aux barbares, a besoin lui aussi d'avoir aussi une unité religieuse dans son empire avant de se lancer dans ses opérations militaires. Et il réunit donc une sorte de conférence en 532-533, avec les partisans de Sévère d'Antioche, et c'est un échec. Mais on fait un pas de plus, et c'est là qu'on voit justement la notion de communication des idoles, avec une formule, donc on pourrait dire, théopagiste, c'est-à-dire où le Dieu subit un pâtit, puisqu'on dira que un de la Trinité a souffert. Vous voyez, un de la Trinité a souffert. Évidemment, il a souffert dans son humanité, pas dans sa divinité. Hein. Un de la Trinité a souffert, et la formule sera approuvée par le pape Jean II. Alors, on pourrait penser que les choses progressent vers une solution. Eh bien non, parce qu'on va voir ce qu'on a appelé l'affaire des trois chapitres. Ou à l'instigation des monophysites, on extrait des passages condamnables de trois des adversaires des monophysites. Alors vous voyez, c'est pratique. Les monophysites ont eu des adversaires. Donc on va fouiller dans leurs écrits et on va trouver, en extrayant du contexte, des passages qui sont susceptibles d'une condamnation. Et en disant, vous voyez, on ne peut pas être condamné par des gens qui sont eux-mêmes condamnables. Et comme ça, on essaie de justifier comment dire, le monophysisme. Alors, les trois qui vont être attaqués, c'est Théodore de Mopsueste, Théodoret de Cyre et Ibas d'Édesse. Alors, l'Église d'Orient entérine sans grand enthousiasme ce brûlot en 531-534. Toujours pour essayer de maintenir l'unité, donc on cherche à louvoyer entre nestorianisme, monophysisme et puis orthodoxie. Mais Rome, qui est beaucoup plus libre finalement, va s'opposer à cette manipulation doctrinale avec le pape Vigile. Vigile, hein, 537-555, qui va être, alors, du coup, qui va s'opposer à l'empereur, qui lui cherche le compromis. Et du coup, que fait l'empereur d'Orient? Eh bien, parce que d'Occident, il n'y en a plus, il va faire saisir le pape au Latran, le déporter à Constantinople, et là, à force de le torturer, il le fera céder, doctrinalement. Donc, on a un pape qui va céder, le pape Vigile. Alors va se tenir le concile de Constantinople II, 553, à l'instigation de l'empereur Justinien, soucieux donc de se réconcilier avec les monophysites particulièrement nombreux dans l'Empire d'Orient, notamment en Égypte, mais aussi en Syrie. Donc le pape Vigile se dérobe. Et néanmoins, les trois chapitres sont condamnés, donc ces fameux trois écrits qui avaient été dirigés par les monophysites contre leurs adversaires. Et dans ces déclarations, deuxième concile de Constantinople parle des deux générations du Christ, celle éternelle dans la Trinité et celle temporelle. Dans l'humanité par l'incarnation. Donc on est bien dans la ligne de Chalcédoine avec les deux natures et qui sont voilà qui sont pas confondues. Et la question, ça sera comment percevoir qu'elles ne sont pas juxtaposées. Vous vous souvenez, c'est le problème de Nestorius. Hein. Nestorius voyait bien les deux natures intègres. Mais il avait du mal à les lier entre elles. Alors, nos affaires de christologie ne sont toujours pas terminées. Petit b, de Constantinople II à Constantinople III. Bon, poursuite des querelles au 7e siècle. C'est la question de ce qu'on appelait le monothélisme. C'était une tentation pour se concilier les monophysites. C'est très politique tout ça, hein. Donc on dit, il y a bien deux natures dans le Christ en une seule personne, hein, la personne divine, qui agit une personne humaine, donc une âme humaine avec voilà, qui actue un corps, une matière dont elle fait son corps. Très bien. Mais en fait, cette unique personne divine n'a qu'une seule volonté qui est divine. Donc l'idée, c'est que on va retirer un petit truc à l'humanité du Christ. On dit oui, il a bien une âme, une intelligence, tout ça. Mais en fait, sa volonté, c'est pas sa volonté humaine, c'est la volonté divine. Qui est une sorte de petite, comment dire, de petite point d'accrochage dans son humanité. Donc, vous voyez, on va retirer à l'humanité du Christ sa volonté, parce qu'on s'aperçoit que dans les évangiles, le Christ obéit toujours à son Père et que finalement, son humanité obéit toujours à sa divinité. Donc, on se dit, bah, c'est tout simplement parce qu'il n'y a qu'une seule volonté et c'est la volonté divine qui agit dans l'humanité du Christ. Donc, vous voyez, c'est une manière de dire en ayant un petit peu le point de vue nestorien qui est celui de Chalcédoine, hein, celui pas de la séparation, mais de la coexistence des deux natures, et de deux natures intègres, hein, une humanité intègre, mais on retire à cette humanité intègre un petit élément, la volonté, en disant que c'est la volonté divine. Donc c'est le monothélisme, une seule volonté. Alors au début, le pape Honorius, 625-638, assez mal renseigné, approuve la formule contenu dans un exposé de la foi produit en 638 par l'empereur Héraclius. Si je me trompe, Héraclius, c'est celui qui récupère la Sainte Croix. Voilà. Donc un bon empereur, hein. Vous savez, c'est celui, hein, qui montera à Jérusalem pieds nus en portant la croix qu'il a récupérée dans une campagne contre les Perses. Alors, des théologiens comme Sophron de Jérusalem, ou saint Maxime le Confesseur, c'est le plus grand père de l'Église de cette période, 580-662, réagissent. En Afrique, des conciles provinciaux condamnent la formule. À Rome, saint Martin Ier, 641-655, qu'on a fêté lundi, voilà, eh ben, va être lui aussi déporté à Constantinople à cause de sa résistance à cette formule. Et il faudra 70 ans pour sortir de cette ambiguïté avec la convocation du troisième concile de Constantinople en 680-681. Vous voyez, 3 siècles après le premier de Constantinople. Comment?
C'est le 3.
Oui. Alors, arrive une nouvelle doctrine pour essayer de résoudre le problème du monothélisme. C'est l'idée du monoénergisme. Alors, l'hypothèse du monoénergisme a été avancée par le patriarche Serge de Constantinople, qui c'est une manière d'atténuer le monothélisme. C'est de dire que dans le Christ, en fait, seule la divinité agit, et en fait, l'humanité est passive. Donc, on peut avoir une humanité du Christ intègre avec sa volonté, vous voyez, etc. Mais en fait, pour faire plaisir aux monothélistes, on dira, en fait, celui qui a l'initiative, c'est Dieu dans le Christ. Et c'est Dieu qui agit à travers l'instrumentalité complètement passive de l'humanité du Christ. Et alors, saint Maxime le Confesseur réagit en disant que le Christ opère aussi humainement d'une manière conjointe, c'est-à-dire son humanité, c'est pas comme la hache maniée par le bûcheron, qui effectivement est inerte, qui fait son office uniquement parce qu'elle est mue intégralement par... Tandis que là, il y a une articulation des deux opérations entre la divinité et l'humanité, dit Maxime. Alors, il ne le dira pas très longtemps, parce qu'il va se faire justement couper la langue, parce que ça ne plaisait pas. Il en mourra, d'ailleurs. Donc, Maxime disait, le Christ opère humainement ce qui est divin, et divinement ce qui est humain. Hein, il y a la communication des idiomes. Hein, par exemple, divinement ce qui est humain, un de la Trinité a souffert. Alors, le patriarche modifie sa pensée et propose, alors à nouveau le monothélisme, une seule personne, une seule volonté, donc pas de volonté humaine du Christ, et l'empereur soutient cette formule. Alors, à Rome, on n'est pas content, et un synode du Latran, avec des évêques italiens, va donc refuser cette position orientale en disant, et c'est dans le recueil d'Ensinger, le recueil des dogmes, dit « Le même et unique Jésus-Christ, notre Seigneur et Dieu, est vraiment par nature Dieu parfait et homme parfait, à l'exception du péché, et qu'ainsi il voulait et opérait divinement et humainement notre salut. » Voilà. Vous voyez, les formulations dogmatiques ne sont jamais des explications, mais des affirmations. Et elles laissent aux théologiens après le soin d'expliciter ce qui vient d'être dit. Mais au moins, ça permet d'éviter de dire autre chose. De quelque chose qui serait opposé à ça. Alors, ça plaît pas à la nouvelle Rome, et l'empereur Constant II va maltraiter saint Martin Ier, c'est pour ça qu'il est célébré en rouge, hein, en 655, et donc saint Maxime le Confesseur, qui est aussi célébré en rouge, en 662. Alors, comme les choses n'avancent pas, Constantin IV va décider de réunir un concile avec participation occidentale. Donc un concile œcuménique. Constantin IV. Alors, le pape de l'époque, Agathon, va réunir d'abord un synode en Occident qui réitère la condamnation du monothélisme. Du coup, fort de cela, les évêques occidentaux unis entre eux, avec l'évêque de Rome, donc participent au troisième concile de Constantinople, qui va proclamer, selon l'enseignement des saints-pères, deux volitions ou deux vouloirs naturels et deux opérations naturelles, sans division, sans changement, sans partage et sans confusion. Donc on reprend le qualificatif de Chalcédoine, mais on l'applique non seulement aux natures, mais aussi aux vouloirs. Donc c'est la condamnation du monothélisme et aussi aux opérations, donc c'est la condamnation du monoénergisme. Voilà, le vouloir humain s'articulant, le vouloir et l'opération humaine s'articulant harmonieusement dans le Christ avec le vouloir et l'opération divine. C'est le Denzinger 556, enfin, si vous voulez avoir le texte en latin, vous l'avez là. Sachant d'ailleurs que ça vous dit quelque chose, Denzinger?
Oui.
Ah, voilà. C'est un petit volume, un petit manuel rose, où il y a au moins la 36e édition, doit être la dernière édition exclusivement en latin, enfin, avec un peu de grec au début. Et elle a été régulièrement révisée, c'est-à-dire qu'il y a certains passages qui ont été évacués, d'autres qui ont été ajoutés. Donc en fait, parfois les numérotations changent un peu. Alors, Denzinger, Heinrich Denzinger, c'était un professeur d'université, un prêtre du 19e siècle. Et ensuite, la révision a été confiée à la Compagnie de Jésus. Alors, c'est pour ça qu'on l'appelle Denzinger Bannwart, ou Denzinger Schönmetzer, ou Denzinger aujourd'hui Hünermann, parce que la dernière révision, qui est aussi le passage dans les langues vernaculaires, a été faite par le jésuite Hünermann. Ça, c'est un jésuite allemand, la province d'Allemagne, de Germanie. Donc, c'est quand même très pratique parce que ça vous donne comment dire, un répertoire des décisions dogmatiques en matière de foi et de mœurs. Voilà. Alors Dumège, c'est intéressant parce que le jésuite Dumège a repris le Denzinger, pas la totalité, mais ce qu'il y avait de plus marquant. Alors le Denzinger, il est classé par ordre chronologique, mais il y a à la fin un ordre, on pourrait dire, des matières thématiques. Un ordre thématique dans l'ordre finalement de l'enseignement de la théologie dans les années 50-60, donc l'ordre des différents traités. Et en fait, Dumège a traduit le Denzinger latin en français et l'a organisé non pas donc selon l'ordre chronologique, mais selon l'ordre thématique qui est à la fin du Denzinger. Et donc c'est très pratique aussi parce que ça commence par Dieu, la Trinité. La christologie, la pneumatologie, l'anthropologie, enfin bref, l'ordre des traités traditionnels depuis le XVIe siècle. Ça, c'est très bien. Et alors, il se trouve encore hein, le Dumège. Il y en a qui l'ont. Voilà. Oui, c'est bien. Alors, le Denzinger, maintenant, vous l'avez en français avec Hünermann. Alors, évidemment, il est bilingue maintenant, donc c'est deux fois plus épais. Et alors en plus, ils ont remis quasiment tout le Concile Vatican dedans, alors c'est moins maniable. Hein. C'est plus un Enchiridion. À l'origine, c'était Enchiridion, hein. Donc c'est ce qui se tient dans la main.
C'est
Une
dans les
tridia,
domaines.
c'est un manuel. Voilà, un manuel. Ça vient de Enchiridion. C'est un manuel,
Ah oui,
c'est
évidemment.
toute une doctrine qui tient dans une main. Et bon, si c'est du temps d'Astérix, évidemment, c'est gravé sur du marbre, donc on ne peut pas mettre grand-chose. Enfin, je plaisante,
La pierre.
mais dans le. Voilà, en fait, à cette époque, c'était. Enfin, cette époque, le 19e, c'est quand même du papier. C'est du papier Bible, hein, quand même. Hein, ça tient dans une main, mais il y a beaucoup de pages. Je ne sais pas combien il y a de pages, d'ailleurs. Je sais pas, au moins 1 000, à peu près. Enfin, voilà. Bon, on va s'arrêter là, parce que notre affaire de Christologie est toujours pas terminée. Elle va se poursuivre encore avec. Oui, c'est ça. Alors, on va voir le concile in Trullo, qui m'avait toujours intrigué, ou Quinisext, qu'on appelle aussi le concile de Quinisext, une sorte de concile intermédiaire. Donc, sur toute la question iconoclaste qui va dévaster encore la chrétienté, surtout orientale, à une époque où elle a plus besoin encore d'unité que jamais, puisque c'est le moment où les hordes mahométanes déferlent sur tout l'Empire d'Orient. Alors, voilà.